Jacques Revon, vous êtes sur Jazz for Fun. Whoopi!
Bonjour Jacques Pradel, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Bonjour, mais c'est un plaisir, je suis venu pour ça. Hein.
Comment avez-vous commencé dans le monde du journalisme et de la radio ?
Oh là là, c'est une très très longue histoire. J'ai commencé dans les années 70 dans une radio étrangère en Hollande, une radio internationale. Il y avait des émissions dans toutes les langues, quasiment, donc anglais, français, allemand, javanais, enfin bon, etc. Et c'est donc là où j'ai... C'est une époque qui est très difficile à envisager maintenant pour des gens qui ont l'âge que j'avais à l'époque. C'est que il n'y avait pas d'école de journalisme, on apprenait son métier sur le tas, avec d'autres, un peu comme des artisans, quoi, qui apprennent à faire un meuble ou quelque chose. Donc j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'avait embauché en fait, mais comme ça, simplement en entendant ma voix, et qui m'a appris évidemment un peu les ficelles du métier, tout ça, pendant 3 ans. Et puis après, après c'est une succession de hasards. Je suis devenu correspondant d'une émission de France Inter à l'époque depuis la Hollande. Et puis quand je suis rentré à Paris, je suis allé forcément à France Inter, c'était la seule radio que je connaissais. Là j'ai galéré pas mal, et puis j'ai trouvé après une petite émission d'été, 4 émissions dans le mois, chaque week-end. Et puis après, encore une série de hasards, des gens que j'avais remplacés mais qui sont jamais rentrés, et puis tout ça fait que j'ai appris mon métier sur le tas. Et après, une fois que j'ai commencé à mieux le maîtriser, on va dire, j'ai intéressé les gens de France Inter qui m'ont donné l'opportunité de faire des tas d'émissions avec Françoise Dolto, etc. Enfin bon, et ça a duré 18 ans.
Et vous avez fait beaucoup de radio donc, et notamment sur RTL avec l'heure du crime. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce média ?
Dans ce média, la radio, vous voulez dire ?
Oui.
La radio, c'est le média le plus souple qu'on puisse connaître, parce que à la télé, il y a toujours 40 personnes sur un plateau de télévision, il y a des éclairages, rien n'est spontané, parce que il faut être dans le bon axe de la caméra, il faut répéter, quoi. Alors même si on répète pas ce qu'on va dire quand on va être en direct, c'est quand même pas de la spontanéité pure, quoi. À la radio, vous avez une idée, décrochez votre téléphone. Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis un tel, je suis journaliste, je voudrais faire une émission un peu comme vous avez fait tout à l'heure. Vous venez me voir, vous me dites, je fais une web radio et j'ai envie de faire une émission. C'est formidable, il n'y a personne entre celui qui imagine le truc et la personne qui va venir. Et donc c'est rapide, c'est immédiat. Et en plus de ça, je pense qu'il y a un élément supplémentaire à la radio, c'est que quand on raconte une histoire, parce que la radio, c'est quand même avant tout raconter une histoire, quelle qu'elle soit, qui n'est pas forcément une histoire criminelle, mais qui est, de faire un peu rêver les gens ou de les cultiver, de les emmener dans un reportage. Vous n'avez pas les images. Et alors ça semble un peu stupide de le dire, mais de le souligner, mais le fait qu'il n'y ait pas d'images fait que votre auditeur est complètement libre d'imaginer ce qu'il veut. C'est-à-dire, le film, c'est les gens qui le font. Le scénario, c'est vous qui le proposez. Mais sinon... Et j'ai l'habitude de dire que la grande différence, parce qu'on m'a posé la question à plusieurs reprises, la grande différence entre la radio et la télévision, c'est qu'à la radio, on s'adresse à autant de fois une personne qu'il y a de gens pour vous écouter. Alors qu'à la télé, c'est déjà une écoute collective. C'est-à-dire, c'est le canapé sur lequel il y a un monsieur, madame, les enfants, peut-être la grand-mère, voire le chien. Et c'est un spectacle. La télé est par essence un spectacle, même quand c'est les infos. À la radio, on a moins de contraintes, plus de liberté, donc, et en plus c'est très souple et on peut faire à peu près ce qu'on veut sans concerner 40 personnes, quoi.
Et c'est plus intimiste.
c'est plus intimiste, c'est plus rapide, c'est plus direct, puis ça permet d'aller au bout du monde. Si demain j'ai envie d'avoir quelqu'un à Tokyo ou à Los Angeles ou à Moscou, c'est le cas, bon, ben, je décroche mon téléphone et voilà.
Votre domaine de prédilection, ce sont les affaires, les histoires criminelles. Qu'est-ce qui vous passionne dans ces histoires ?
C'est-à-dire que c'est venu un peu... c'est pas un plan de carrière, c'est le hasard de moi pendant jusqu'en 1991, j'ai très rarement évoqué des affaires criminelles, en tout cas c'était pas le thème de mes émissions. Et puis en 91, il y a une émission qui s'appelle Perdu de vue qui est créée par TF1, on me demande de la présenter, et là et puis après on va faire Témoin numéro 1 qui est le même système que Perdu de vue mais plus adapté aux affaires criminelles. Et donc du coup je fais une plongée profonde, si j'ose dire, et longue dans le monde judiciaire que je ne connaissais absolument pas à l'époque. Donc alors après, évidemment, comme les décideurs ont peu d'imagination, quand un truc fonctionne bien, ben ils vont vous demander toujours de continuer. Alors après, c'est à soi-même de savoir si on rentre dans ce jeu ou pas, et j'y suis rentré effectivement. Mais après, quand j'ai quitté TF1 en, je sais plus, 1998, j'ai fait presque 10 ans de radio sur Europe 1 sans parler d'affaires criminelles. Et puis, à l'occasion d'un changement de patron, le directeur des programmes m'a dit « Mais tu faisais dans le temps sur TF1 ce truc, t'es chouette et tout, est-ce qu'on peut pas ?» Et j'ai fait à ce moment-là une émission qui s'appelait ça c'est fou, c'est freudien. Café Crime, voilà. Café Crime. Et puis après, on a fait un peu de mal aux audiences à RTL à l'époque. Et donc, moi, je voulais quitter Europe 1 pour des tas de raisons. Et donc, j'ai été invité, entre guillemets, par RTL à venir faire la même chose chez eux. Et ça a duré 10 ans, quoi. Voilà.
Aujourd'hui, vous êtes au Mans pour dédicacer vos livres, et en particulier votre dernier livre, « Mes archives criminelles ». De quoi parle-t-il ?
Alors, c'est parce que on me pose, comme effectivement avec le temps qui passe, j'ai vraiment, je suis devenu un peu un spécialiste des affaires criminelles. Donc, j'ai raconté beaucoup d'histoires à la radio, à la télé, dans la presse aussi. Et quand je rencontre des gens, puis ces émissions, certaines de ces émissions ont eu des très grands succès. Donc, elles ont marqué finalement une époque. Donc les gens, quand on parle, que ce soit avec des amis ou avec des journalistes, arrivent toujours, finalement, depuis longtemps, la même question, mais dans toutes les histoires que tu as racontées, est-ce qu'il y en a une qui est plus marquante que les autres, ou plus... quelle est l'histoire maximum, quoi ? Et je réponds à chaque fois, l'histoire qui m'a le plus marqué, il n'y en a pas une, il y en a peut-être 10, 20, 30, 50... et comme on me posait toujours la question, un jour j'ai joué le jeu, j'ai pris une page blanche et je me suis dit, allez, je m'interroge moi-même, quelles sont les affaires criminelles qui m'ont frappé, particulièrement marqué, et j'en ai trouvé dans un premier temps 25 ou 26, et je les ai mises dans ce livre. Et à la lecture de ces affaires, on comprend pourquoi elles m'ont marqué, et surtout qu'est-ce qui m'a marqué dans ces histoires, si vous voulez.
Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ?
Oui, c'est-à-dire, là j'ai évoqué tout à l'heure dans le débat Issei Sagawa, le japonais cannibale de Paris, parce que ça c'est pour le côté extraordinaire du crime. C'est-à-dire c'est un gars qui vient manger une étudiante qui étudie avec lui à la Sorbonne, c'est quand même rare, bon... Et puis surtout, tout le reste de l'histoire du gars qui est incroyable. Bon, puisqu'il est interné, il n'y a pas de procès, puisqu'il est considéré comme malade mental. Il est interné en France. Et puis ensuite, son papa, qui est un homme d'affaires très riche et qui connaît beaucoup la France, réussit à le faire venir au Japon, à Tokyo, dans un institut psychiatrique, où finalement, ce que personne n'avait prévu, c'est qu'au bout d'un an, les psychiatres considèrent qu'il est guéri ou qu'il n'a pas à être guéri. Voilà, et on le libère. Donc, quand même assez énorme comme histoire. Bon. Les disparus de Boutier dont on a parlé, c'est un grand mystère qui n'a jamais été résolu. Il y a 50 ans, le 24 décembre 1972, il y a une famille qui réveillonne avec une famille d'amis à Cognac. Et puis à 2h du matin, tout le monde s'en va, dont la famille Méchineau, c'est le nom de cette famille, avec le père, la mère, les deux enfants, qui sont des petits-enfants, 5 et 7 ans. Et ils prennent leur voiture pour aller à 5 km de là, quoi, chez eux, et ils n'arrivent jamais chez eux. Et donc, évidemment, les proches s'interrogent, s'inquiètent, on perquisitionne la maison de Boutier, donc le village de Boutier, et là, on trouve le sapin de Noël avec les cadeaux des enfants qui n'ont pas été déballés. Dans le réfrigérateur, la dinde de Noël et les huîtres. Et puis l'enquête n'aboutit pas. Et 50 ans après, elle n'a toujours pas abouti. On n'a jamais retrouvé la voiture, on n'a jamais retrouvé un des membres de la famille. Donc il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de. Finalement, c'est comme si ces gens s'étaient évaporés, quoi, finalement. Alors, il y a forcément une explication, mais pour l'instant, on ne peut que émettre des hypothèses. On n'a rien sous la dent, voilà. Et puis, bon, il y a d'autres histoires, je ne sais pas, comme ça.
Mais on peut acheter le livre pour les découvrir.
Ben, voilà. Oui, oui, très bonne remarque.
Est-ce que vous étiez déjà venu au Mans ou alors dans d'autres salons comme celui-ci ?
Oui, d'autres salons, oui, parce que là, le livre est paru en mai, donc j'ai fait beaucoup de salons, Paris, Limoges, Nice, enfin bon, etc., Saumur. Et il y a 15 jours, j'étais à Perros-Guirec en Bretagne, donc je fais un peu un tour de France des salons du livre pour présenter ce livre, parce que quand un livre paraît, évidemment, on a envie de le faire savoir, de le faire connaître, voilà. Et puis là, bientôt, je vais aller à Saint-Laurent-du-Var, peut-être aussi à Marseille, et puis à Toulon. Je vais terminer la tournée dans le sud de la France. Voilà. Donc, mais le Mans, c'est la première fois que je viens. Aussi curieux que ça puisse paraître, bon, j'avais traversé la ville du Mans en bagnole, comme tout le monde, hein, mais je n'étais jamais venu, ni au Salon du Livre, ni j'étais resté plusieurs jours dans la région, où j'ai été superbement accueilli, je dois dire. Voilà.
Et est-ce que vous serez là aussi demain ou vous êtes là qu'aujourd'hui ?
Non, je suis là demain matin jusqu'à 14h, parce qu'après je reprends le train et je rentre pour la suite de mes aventures.
Eh bien merci beaucoup Jacques Pradel.
Ouais. Mais c'est moi qui vous remercie.